Développement durable. Un magazine sur l'environnement et le développement durable. Une émission coproduite par Fréquence Sillée 97.9 et Radio Alpes-Mancelle 106.3 en partenariat avec le pays de la Haute-Sarthe.
Développement durable pour un territoire durable, un écoquartier, c'est quoi ?
À la suite du Grenelle de l'environnement a émergé la notion de ville durable, une nouvelle façon de concevoir, construire, faire évoluer et gérer la ville. L'écoquartier apporte une réponse d'habitat durable. Pour nous en parler, on reçoit Nicolas Duverger, directeur du CAUE de la Sarthe. Alors le CAUE, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, et également architecte. Nicolas Duverger, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous a invité pour parler d'écoquartier puisque vous avez édité une plaquette.
Tout à fait. Alors, c'est l'idée de cette plaquette qui s'intitule « Un écoquartier, c'est quoi ?» tout simplement, c'est de dresser comme ça une petite méthodologie en matière d'écoquartier, mais de façon assez simplifiée, avec des termes très abordables, pour réhabiliter quelques vérités d'ailleurs en matière d'urbanisme qui sont déjà une approche plutôt sobre et simple en matière d'aménagement de quartier.
On voit comme ça apparaître des nouveaux termes, bon, le développement durable depuis des années, maintenant on parle de ville durable, on parle de territoire durable et on parle d'écoquartier. Alors un écoquartier, c'est quoi concrètement ?
C'est déjà un quartier. Donc un quartier, c'est un morceau de ville. Mmh. Et donc pour que ce morceau de ville fasse greffe avec la ville, puisque c'est l'ambition quand même des aménageurs et des politiques, il faut déjà que le choix du terrain soit pertinent. On a vu beaucoup d'éco-quartiers comme ça fleurir, enfin, ou des quartiers qui se prétendaient comme éco fleurir sur des sites un peu excentrés, en favorisant d'ailleurs le mitage et l'étalement urbain. On préconise plutôt le choix d'un terrain bien centré, en lien avec des équipements publics, en lien avec les différentes infrastructures, de façon bien évidemment à éviter la débauche d'énergie et les transports inutiles. Donc c'est déjà dans le choix du terrain qu'on peut qualifier un écoquartier.
Est-ce qu'il s'agit de quartiers neufs ou de réhabilitation ?
Alors favoriser bien sûr la réhabilitation quand on peut le faire, donc s'inscrire sur des friches industrielles, d'anciens bâtiments, etc. Essayer de les conserver, de les faire durer, de faire vivre le plus longtemps possible. Et parfois ça peut être des constructions neuves. On a beaucoup d'écoquartiers en Europe, je pense notamment à Grenoble, je pense à Fribourg, je pense au nord de la France, qui sont des réalisations neuves sur des sites souvent d'ailleurs d'anciennes friches militaires.
Qu'est-ce que cela intègre ? Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la notion écologique, évidemment, dans éco, mais aussi économique et sociale. Ça, c'est trois objectifs, trois points forts essentiels.
C'est trois piliers. Donc, effectivement, l'ambition quand même, c'est que les gens vivent bien dans le quartier. Donc, il y a cette dimension sociale qui est essentielle. Et ça passe par quoi ? Ça passe par une recherche de mixité sociale et fonctionnelle. Sociale pour que différentes générations se trouvent au cœur même du quartier, qu'on n'ait pas une caractérisation trop forte d'un type de population au sein du quartier, mais que les gens vivent mélangés, ensemble, finalement, sur des espaces publics et communs véritablement conçus. Ça, c'est le premier point. Économique, bien sûr, c'est fondamental, une recherche d'économie, et donc on raisonnera coût global en termes d'investissement, on se contentera pas de s'arrêter aux investissements, donc le coût généré par la mise en place des infrastructures ou des logements, mais on essaiera de voir combien ces logements consommeront d'électricité, etc. Et comment on pourra envisager d'ailleurs de recycler un certain nombre de matériaux et d'architecture, et comment on pourra les faire évoluer. Donc ça, c'est l'aspect économique qui est essentiel. Et il y a bien sûr l'aspect écologique qui est transversal, donc c'est éviter les gaz à effet de serre, c'est favoriser la biodiversité, c'est gérer l'eau sur la parcelle dès qu'on peut, enfin, favoriser la rétention d'eau de pluie ou l'infiltration des eaux pluviales, enfin voilà, un certain nombre de facteurs qui font que le quartier sera agréable pour le plus grand nombre.
Justement, l'implication de ces habitants est là aussi essentielle, dès le projet à la construction jusqu'à la gestion de cet écoquartier.
Alors c'est la question de la participation. Effectivement, elle revient souvent parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Les élus, les décideurs sont un peu désemparés, puisque par définition le quartier n'est pas encore en place. Donc, il s'agit d'un projet. Comment associer les habitants qui ne sont pas là? Alors ça peut se faire de différentes façons. Associer les riverains dans un premier temps, donc les gens qui habitent en périphérie de ce quartier, leur donner sous forme d'ateliers pédagogiques des clés de compréhension du projet, parce que souvent on se heurte à des incompréhensions. Les gens ne savent pas tous lire un plan, des coupes, des perspectives, etc. Donc il faut aussi leur donner des éléments didactiques de compréhension du projet, leur faire comprendre qu'il s'agit d'un projet qui s'inscrit dans une démarche globale à l'échelle de la ville, non pas uniquement centré sur la parcelle. Ça, c'est le premier point. Donc pédagogie et attention des riverains. Le deuxième point, l'attention des futurs habitants. Ne pas trop figer non plus dans son dessin le quartier, le laisser évoluer au gré des volontés des habitants. C'est essentiel. On l'a vu sur Fribourg ou dans le quartier Vauban par exemple, certains espaces n'étaient pas dessinés au stade du projet. Et 5-10 ans après l'appropriation par les premiers habitants du quartier, ces derniers ont pu envisager un aménagement un peu personnalisé à leur manière de ces espaces qui étaient laissés presque comme des friches. Alors, c'est un gros mot, qui n'était pas des friches, mais qui était certes entretenu, mais qui n'avait pas d'affectation particulière. Et donc les habitants ont pu, sous forme d'ateliers pratiques, concevoir des jeux pour enfants en tressant par exemple du saule, ont pu prévoir la plantation d'un certain nombre d'arbres, ont pu prévoir la mise à disposition de mobilier urbain, etc. Donc il y a cette notion d'appropriation qui est essentielle.
On peut parler un peu des limites de cet écoquartier en matière de coûts, par exemple, pour les particuliers qui voudraient s'installer dans ces écoquartiers, construire, est-ce que ça implique un coût plus important?
Mais c'est la question du coût global qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire qu'à l'investissement, bien sûr, ça coûtera un peu plus cher parce que les architectures sont plus isolées, avec peut-être des techniques plus affûtées en matière d'économie d'énergie. Je pense à des ventilations double flux qui coûtent plus cher qu'une simple flux, ou voire hygrométrique, par exemple, qui est un peu plus simple que la double flux. Mais enfin, il y a des dispositifs comme ça architecturaux qui sont peut-être un peu plus, j'ai pas dire complexes parce que c'est pas le mot, ils sont pas plus complexes. On recherche une certaine rusticité. Qui gage de pérennité des équipements, mais peut-être un peu plus innovant. D'ailleurs, je dis innovant, mais on fait la part belle aussi au bon sens, puisque c'est de la conception bioclimatique. Hein. Il s'agit de bien orienter l'architecture dans un premier temps, de concevoir des espaces qui tiennent compte de la course solaire, par exemple, et d'un certain zonage thermique à l'intérieur du bâtiment. Enfin, voilà, ça c'est la conception bioclimatique. Donc ça coûte peut-être un peu plus cher à l'investissement, mais en fonctionnement, on s'y retrouve bien évidemment sur 10, 15 ans.
C'est le principe du développement durable aussi, que ce soit durable.
Ça soit durable, tout à fait. Et donc on consommera moins d'énergie, donc on fera des économies.
Hautement durable, une émission coproduite par Fréquence Oscillée 97.9 et Radio Alpes-Mancel 106.3 en partenariat avec le Pays de la Haute-Sarthe.
Toujours avec Nicolas Duverger, directeur du CAUE de la Sarthe, architecte. Donc pour cette notion d'écoquartier, on a parlé il y a un instant donc des habitants. Parlons maintenant des collectivités. Si on revient sur le département de la Sarthe, ouais. Est-ce qu'il y a des réalisations ou des projets qui sont éventuellement en cours?
Alors, il y a un certain nombre de projets, ils sont pas très nombreux, à vrai dire. Il y a des velléités, on entend parler assez régulièrement, comme ça, de l'implantation de nouveaux quartiers, et on aborde cette question d'éco-quartier. On peut peut-être en recenser une dizaine sur le département qu'on pourrait qualifier en tant qu'éco-quartier. Je sais que Sablé se lance de façon assez avancée sur la question. Sur Changé, on accompagne la collectivité sur un projet un peu innovant. Sur Le Mans, on a entendu parler d'éco-quartier. Sur la commune du Grès, à côté de Sille-Guillaume, il y a un projet qui a été piloté par ADDE et qui donne lieu à une approche environnementale d'urbanisme, donc qui vise justement à mettre en avant des objectifs environnementaux. Enfin, donc il y a quelques initiatives qui commencent à se structurer, à s'organiser, mais on n'a pas suffisamment de recul sur le sujet à l'image des villes voisines comme Rennes ou qui sont peut-être plus avancées.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même une mise en marche de sensibilisation des élus au développement durable ?
Ah ben, on a quand même le sentiment que depuis 2-3 ans, les élus sont véritablement engagés dans ces questions de développement durable et ont pris conscience de la nécessité d'agir. Donc ça passe par exemple au stade du PLU par une approche plus parcimonieuse du foncier, essayer d'éviter le mitage, l'étalement urbain et réduire les surfaces ouvertes à l'urbanisme. Donc il y a déjà des attitudes qui changent, comme ça des comportements qui évoluent.
Vous parliez d'accompagnement tout à l'heure, donc le CAE accompagne ces collectivités. Quels sont les outils que vous mettez en place pour justement les aider dans leurs projets ?
Alors, quand le législateur a mis en place en 77 le CAE, il a défini les missions, les grandes orientations de l'action du CAE. Donc c'est informer, sensibiliser, former et conseiller les collectivités. Alors, sur les domaines de la pédagogie, l'information, la formation, ce sont des formations très concrètes, dispenser l'attention des élus en matière de développement durable. Ça a été un voyage à Fribourg où nous avons accompagné 106 élus du département, donc visité des écoquartiers de Riesfeld et de Vauban. Et je crois que ça constitue un déclic sur le département et une mise en commun comme ça de ce questionnement, une culture commune à l'échelle du département qui essaime, qui commence à faire des petits. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, il y a un volet conseil. Donc on passe par des conventionnements avec les collectivités. On accompagne très en amont d'un projet d'aménagement sur, depuis l'opportunité foncière finalement de mettre en place un nouveau quartier, sur la localisation de ce nouveau quartier, jusqu'à une première ébauche comme ça, une première visualisation de ce que pourrait être un nouveau quartier respectueux de l'environnement avec des simulations graphiques qui permettront à la maîtrise d'ouvrage, donc aux élus, d'appréhender le projet de façon plus consistante et de passer une commande ferme, affermie auprès d'une équipe pluridisciplinaire qui, on le souhaite, sera composée d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes.
La qualité de vie, de toute façon, les collectivités, les élus l'ont certainement compris, c'est essentiel pour le développement social, économique du territoire. Est-ce qu'on pourrait envisager, comme pour les logements sociaux, qu'il y ait des quotas pour la mise en place, la construction d'éco-quartiers ?
Alors, de quotas, je ne sais pas, mais en tout cas, la réglementation va dans ce sens-là. Le Grenelle est très clair, donc qui favorisera les économies d'énergie, la mise en place d'une réglementation thermique relativement contraignante, qui va dans le bon sens, avec le label BBC, bâtiment basse consommation, comme norme d'ici très peu de temps, et puis bâtiment énergie positive à une échéance un peu plus éloignée, mais relativement proche. Donc ça, c'est quand même une première avancée. Les questions des corridors écologiques, la question des trams vertes, la question des trams bleus à inscrire au PLU et à prendre en compte dans les nouveaux quartiers, le recensement des zones humides, on évolue quand même dans le bon sens et on sent qu'il y a une prise de conscience qui est appuyée par des textes réglementaires qui aident quand même à cette démarche globale.
Ce guide conseil que le CAE donc, a édité, un éco-quartier, c'est quoi ? Il s'adresse à qui et où est-ce qu'on peut le trouver ? Même les particuliers, par exemple, peuvent se le procurer ?
Bien sûr, il s'adresse à tous les bons citoyens, enfin tous citoyens français. Ça s'adresse aux élus, déjà, dans un premier temps, qui vont porter des projets, et puis bien sûr aux particuliers qui souhaitent en savoir un peu plus sur ces notions d'éco-quartier.
Merci Nicolas Duverger, directeur du CAE de la Sarthe, architecte également. On va finir avec une citation que vous avez éditée d'ailleurs sur ce guide.
Ouais.
C'est Richard Rogers qui décrit la ville durable, ouais, comme juste, belle, créatrice, écologique, accueillante, compacte et polycentrique et surtout diversifiée. Donc l'éco-quartier, c'est la ville idéale quasiment.
Et ben, c'est réapprendre à vivre ensemble finalement, c'est un peu ça.
C'était un éco-quartier, c'est quoi ? Dans Hautement Durable, un magazine coproduit par Fréquence Oscillée, Radio Alpes-Mancelles et le Pays de la Haute-Sarthe. Réalisé par Nathalie Lotin de Fréquence Oscillée.